histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Première partie. Le soutien du gouvernement américain au système esclavagiste se fondait avant tout sur un indiscutable sens pratique. Aux environs de 1790, le Sud produisait 1 millier de tonnes de coton par an. En 1860, il en produisait 1 million de tonnes. Au cours de cette même période, le nombre des esclaves passait de 500 000 à 4 millions. Constamment en proie aux révoltes et aux conspirations, Gabriel Prosser en 1800, Denmark Vesey en 1822, Nat Turner en 1831, les États esclavagistes du Sud développèrent un réseau de différents outils de contrôle qui s'appuyaient sur les lois, les tribunaux, les forces armées et le préjugé raciste des responsables politiques de la nation. Seul un soulèvement général des esclaves ou une guerre généralisée aurait pu abattre un système aussi solidement étayé. Un soulèvement général risquait de se révéler incontrôlable et de libérer des forces qui pourraient s'en prendre, au-delà de l'esclavage, au système d'enrichissement capitaliste le plus efficace du monde. En cas de guerre généralisée, en revanche, ceux qui la conduiraient pourraient en maîtriser les conséquences. Aussi, est-ce Abraham Lincoln et non John Brown qui affranchit finalement les esclaves. En 1859, John Brown fut pendu avec la complicité des autorités fédérales pour avoir tenté de faire, par un usage somme toute modéré de la violence, ce que Lincoln ferait quelques années plus tard, après un déchaînement de violence généralisée, mettre fin à l'esclavage.
Massacre de porc, je viens la guerre, je n'aime pas mon père, je viens le suicide, le monde est une ruine, je mange la viande, le monde est violent, je vis dans la peur, dans les noirs et les horreurs, je ne sais pas vivre, je saute dans le vide, je connais pas l'amour, car le monde est trop lourd, je suis mal dans ma peau, car le monde est pas beau, j'ai mal dans la vie, car le monde est tuerie, je pense au massacre que personne ne condamne, et je pense à la mort que tout le monde ignore, j'ai les testicules froides et ma tête est une boîte, regarde mes excréments, la course aux armements.
L'abolition de l'esclavage se faisant sur ordre du gouvernement, sous la formidable pression, il est vrai, des noirs, libres et esclaves et des blancs abolitionnistes, elle pouvait être orchestrée de manière à ce que l'émancipation restât limitée. Cette libération, venue du haut, ne pouvait dépasser les bornes fixées par les intérêts des groupes dominants. Mais, portée par la dynamique de la guerre et la rhétorique de la croisade, elle pouvait être ramenée vers un cadre encore plus sûr. Si l'abolition de l'esclavage entraîna, en effet, une reconstruction nationale sur les plans économiques et politiques, ce ne fut pas une reconstruction radicale, mais une reconstruction sécurisante et surtout rentable. Le système des plantations, fondé sur la culture du tabac en Virginie, en Caroline du Nord et au Kentucky, et sur celle du riz en Caroline du Sud, s'étendit au coton sur les nouvelles terres luxuriantes de Géorgie, d'Alabama et du Mississippi, nécessitant dès lors un nombre accru d'esclaves. Mais l'importation d'esclaves était illégale depuis 1808. Donc, selon John Hope Franklin, From Slavery to Freedom, dès le départ, la loi ne fut pas appliquée. Les kilomètres de côte non surveillés, l'assurance de trouver un marché et la perspective de faire d'immenses profits poussèrent les négociants américains à céder à la tentation. Franklin estime que quelque 250 000 esclaves furent débarqués illégalement sur les côtes américaines avant la guerre de sécession. Comment peut-on parler de l'esclavage? Peut-être est-ce impossible quand on ne l'a pas vécu. Les économistes et les historiens statisticiens ont tenté de rendre compte de l'esclavage par l'analyse des budgets consacrés à la nourriture et aux soins d'un esclave. Mais cela peut-il témoigner de la réalité de l'esclavage telle que le vivait l'être humain qui le subissait? Enfin, les conditions de l'esclavage ont-elles la même importance que l'existence de l'esclavage? John Little, un ancien esclave, écrivait. Ils disent que les esclaves sont heureux parce qu'ils rient et qu'ils sont joyeux. J'ai moi-même reçu, avec 3 autres de mes camarades, 200 coups de fouet en un seul jour. Et l'on m'a mis les fers aux pieds. Pourtant, le soir, nous pouvions danser, chanter et faire rire les autres avec le bruit de nos chaînes. Comme nous devions être heureux, n'est-ce pas? En fait, nous ne le faisions que pour nous défouler et pour que nos cœurs ne soient pas brisés tout à fait. C'est aussi vrai que la parole de l'Évangile. Alors, n'étions-nous pas parfaitement heureux? C'est pourtant vrai. Je l'ai fait. Oui, j'ai fait toutes sortes de cabrioles, malgré mes chaînes. On trouve dans les registres d'une plantation conservée dans les archives de l'Université de Caroline du Nord une liste qui indique l'âge et la cause du décès de tous les esclaves morts entre 1850 et 1855. Sur les 32 individus décédés au cours de cette période, 4 seulement avaient atteint 60 ans. 4 encore avaient 50 ans. 7 sont morts dans la quarantaine, 7 entre 20 et 39 ans, et 9 autres avant l'âge de 5 ans. Mais les statistiques peuvent-elles nous dire ce que ressentaient les familles éparpillées dont le maître, par cupidité, avait vendu le père, la mère, un fils ou une fille? Un livre récent sur l'esclavage, Robert Fogel et Stanley Ingerman, Time on the Cross, observe la pratique de la flagellation entre 1840 et 42 sur la plantation Barrow, en Louisiane, qui comptait 200 esclaves. Les documents indiquent qu'au cours de ces 2 années, un total de 160 séances de flagellation ont eu lieu, soit une moyenne de 0,7 par tête et par an. Près de la moitié des esclaves n'ont jamais été fouettés au cours de cette période. On pouvait tout aussi bien dire « la moitié des esclaves ont été fouettés ». Mais cela sonne tout autrement. Si cette statistique, 0,7 flagellation par tête et par an, montre que les esclaves, pris individuellement, n'étaient pas souvent fouettés, elle permet également d'affirmer que tous les 4 à 5 jours en moyenne, un esclave quelconque a subi ce châtiment entre 1840 et 1842. Pour nos 2 auteurs, Barrow n'était pas plus cruel que la moyenne de ses collègues planteurs. Il habillait ses esclaves, leur accordait des jours fériés et leur construisit même une salle de danse. Mais il construisit également une prison et inventait en permanence des châtiments originaux, ayant compris qu'une certaine incertitude en ce domaine lui permettait de mieux contrôler les équipes d'esclaves. Les révoltes d'esclaves aux États-Unis n'étaient ni aussi fréquentes, ni aussi importantes que dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. La plus importante de ces révoltes est probablement celle qui eut lieu près de la Nouvelle-Orléans en 1811. 400 à 500 esclaves se rassemblèrent à la suite d'un soulèvement sur la plantation du Major Hendry. Armés de machettes, de haches et de gourdins, ils blessèrent Hendry, tuèrent son fils et se rendirent dans les autres plantations, entraînant derrière eux toujours plus d'esclaves. Ils furent attaqués par l'armée américaine et les forces de la milice. 66 esclaves furent tués pendant la bataille et 16 autres jugés et fusillés. En 1822, la conspiration de Denmark Vesey, un noir libre, fut écrasée avant même que la révolte n'éclate. Il était prévu d'incendier Charleston, en Caroline du Sud, puis les 6 plus grandes villes de l'État afin de provoquer un soulèvement général des esclaves de la région. Plusieurs témoins affirmèrent que des milliers de noirs étaient, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans cette conspiration. Selon Herbert Aptheker, les esclaves avaient fabriqué quelques 250 piques et baïonnettes et plus de 300 poignards. Mais la conspiration fut trahie et 35 noirs, dont Vesey lui-même, furent pendus. Même le compte-rendu du procès, publié à Charleston et jugé trop dangereux pour tomber aux mains des esclaves, fut condamné à être détruit immédiatement après sa publication. À l'été 1831, la révolte de Nat Turner éclatait dans le comté de Southampton, en Virginie. jetant le Sud esclavagiste dans la panique la plus totale. Turner prétendait avoir des visions religieuses. Il rassembla environ 70 esclaves qui allèrent de plantation en plantation, saccageant tout sur leur passage, assassinant une cinquantaine d'hommes, de femmes et d'enfants. Malgré le soutien de quelques sympathisants, ils furent finalement capturés quand les munitions vinrent à manquer. Turner et 18 de ses camarades furent pendus. Après cette révolte, on fit tout ce qui était imaginable pour renforcer la sécurité du système esclavagiste. De telles révoltes nuisaient-elles à la cause de l'émancipation, comme le prétendaient alors certains abolitionnistes? La réponse à cette question fut apportée en 1845 par James Hammond, esclavagiste fervent. Même si votre attitude était complètement différente, même si vos lèvres distillaient du nectar et si vos discours résonnaient comme la plus douce des musiques, pensez-vous que vous nous persuaderiez d'abandonner 1 000 millions de dollars sur la valeur de nos esclaves et 1 000 autres millions sur celle de nos terres? Conscients de cela, les propriétaires d'esclaves se préparèrent à réagir. Henry Traggle, dans son Southampton Slave Revolt of 1831, explique qu'en 1831, la Virginie était un état en armes où les garnisons pullulaient. Avec une population totale de 1 200 000 habitants, l'État de Virginie était en mesure de mettre sur pied une milice composée de plus de 100 000 hommes, avec une artillerie, une cavalerie, des grenadiers, une infanterie légère et des tirailleurs. Il est vrai qu'il s'agissait d'une armée sur le papier, puisque les régiments des comtés n'étaient pas suffisamment armés et équipés. Néanmoins, cela constitue un étonnant témoignage sur l'état d'esprit de l'opinion publique. En effet, à une période où ni cet État ni la nation dans son ensemble n'avaient à redouter de menaces extérieures d'aucune sorte, la Virginie ressentait tout de même le besoin de maintenir une force de sécurité correspondante à presque 10% de sa population globale. Noirs et blancs, hommes et femmes, esclaves et individus libres. Salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le... Comment peut-on parler de l'esclavage? Peut-être est-ce impossible quand on ne l'a pas vécu. Les économistes et les historiens statisticiens ont tenté de rendre compte de l'esclavage par l'analyse des budgets consacrés à la nourriture et aux soins d'un esclave. Mais cela peut-il témoigner de la réalité de l'esclavage telle que le vivait l'être humain qui le subissait? Enfin, les conditions de l'esclavage ont-elles la même importance que l'existence de l'esclavage? John Little, un ancien esclave, écrivait. Ils disent que les esclaves sont heureux parce qu'ils rient et qu'ils sont joyeux. J'ai moi-même reçu, avec 3 autres de mes camarades, 200 coups de fouet en un seul jour. Et l'on m'a mis les fers aux pieds. Pourtant, le soir, nous pouvions danser, chanter et faire rire les autres avec le bruit de nos chaînes. Comme nous devions être heureux, n'est-ce pas? En fait, nous ne le faisions que pour nous défouler et pour que nos cœurs ne soient pas brisés tout à fait. C'est aussi vrai que la parole de l'Évangile. Alors, n'étions-nous pas parfaitement heureux? C'est pourtant vrai. Je l'ai fait. Oui, j'ai fait toutes sortes de cabrioles, malgré mes chaînes. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.